Amis, amis de YesDoc, nous revoilà. Nous revoilà.
Oui, Maëlle. Je commence avec le fou rire, c'est déjà pas mal.
Écoute, c'est une bonne nature, cette
Yael. On est bien parti.
On est bien, ça va être une bonne émission. D'autant plus qu'on reçoit aujourd'hui le talentueux docteur Michel Abramovitch, cardiologue, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Salut Michel.
Salut Eddy, salut Yael.
Hey, bienvenue chez nous.
Merci de l'invitation, content d'être avec vous.
Eh bien écoute, aussi content.
Nous on est ravis
d'avoir tous nos invités. Michel en plus, il faut le dire, hein, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Et donc on a beaucoup de plaisir à t'accueillir ici. Michel va nous entretenir aujourd'hui de la prévention cardiovasculaire. Encore un sujet assez vaste, mais je pense qu'il va intéresser les jeunes, les moins jeunes.
Tous les âges, je pense.
Tous les âges, la prévention cardiovasculaire est un must. Je suis un exemple de qualité de prévention. Pourquoi ? C'est quoi ? Ton fou rire ou
c'est
toujours le fou rire ?
C'est ce que tu viens de dire.
Alors, mon ami Michel, bienvenue. Tu connais un peu les habitudes de l'émission parce que j'imagine que tu en as écouté
trois. Je suis un fervent auditeur.
Oh, il est magnifique.
Ah, ça fait
il est
plaisir.
Magnifique. Tu sais quoi ? C'est...
Si même les médecins nous écoutent, c'est
bon,
encore
écoute,
mieux.
Tu reviens en deuxième semaine.
Ça veut dire que j'ai raté la première ?
Non, justement, pour améliorer encore ta cote. Donc, monsieur... l'idée, c'est que, d'abord, tu te présentes, hein, tu nous expliques un peu la manière dont tu es arrivé à la médecine et puis à la cardiologie. Et le micro est à toi, mon cher Michel.
Eh bien, encore merci. Donc, en tant que prévention, non pas cardiovasculaire pour le moment, mais de l'ennui et du bâillement, je ne vais pas passer de longues heures à vous raconter mon parcours.
Ouais, c'est ça.
Mais faire
déjà,
un petit résumé.
Déjà, il nous casse la baraque. Ouais, d'accord.
Après 12 ans de fréquentation des écoles communales primaires et secondaires de mon quartier, où j'ai très peu travaillé, parce qu'on nous demandait très peu de travail, pas parce que je n'étais pas obéissant, et où je me suis beaucoup mieux amusé que mes potes de l'époque qui étaient dans les écoles de la ville, je suis arrivé à l'université et j'ai décidé de faire la médecine parce que je trouvais sympa l'idée de pouvoir être utile. C'est ce qui me paraissait être un bon exemple d'utilité vis-à-vis de la société, des autres en général, et que j'aimais les sciences. Donc, en avant pour la médecine. Et 7 ans plus tard, j'ai décidé de m'orienter en spécialisation de médecine interne. Discipline, au pluriel, essentiellement intellectuelle. Parce que, notamment, je pensais que j'étais maladroit manuellement. Et puis, dans une des choses les plus amusantes de ma vie, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais très adroit pour tout ce qui était procédure technique médicale. En tout cas, j'ai jamais essayé de monter un meuble Ikea, mais tout ce qui était ponction, pose de toutes sortes de cathéters, intervention percutanée, je me suis étonné très fort d'être performant et adroit, et ça a contribué à me faire décider de m'orienter vers la cardiologie, puisqu'il y a une part manuelle tout à fait substantielle. J'ai donc fait ma spécialisation en cardiologie à Erasme, où j'ai en réalité fait toute ma spécialisation avec un échange de 6 mois à Tivoli, qui était très, très enrichissant. C'était vraiment autre chose. Et j'ai continué à Erasme en tant que résident, donc spécialiste en début de carrière, je me suis très, très agréablement développé sur le plan clinique. J'ai beaucoup aimé la clinique et l'enseignement, mais j'étais moins attiré par la recherche. Ce qui a orienté la suite de ma carrière. Et donc... j'adorais vraiment la clinique et l'enseignement, mais la recherche scientifique m'attirait moins. J'étais toujours d'accord de participer à un travail. Et par exemple, j'étais le coordinateur pour Erasme de l'étude ISIS-2, qui a définitivement établi la thrombolyse intraveineuse comme un traitement efficace de l'infarctus myocardique aigu. Donc, l'administration par voie intraveineuse de substances pour dissoudre le caillot responsable l'infarctus myocardique. Mais j'ai jamais voulu être le moteur de travaux scientifiques. Et quand est venue la fin de ma période de résidana, j'ai postulé pour le premier poste définitif du cadre chef de clinique adjoint, en sachant que je ne rentrais pas dans le moule, puisque j'avais peu de publications scientifiques. Il y avait des éminences de la faculté qui ont plaidé le fait que le curriculum scientifique ne devait pas être une limite à la nomination, mais qu'il fallait aussi des cliniciens, que c'était bien d'avoir une palette diverse de médecins et qu'il y avait peu de gens qui font tout bien.
Mmh. Mais qui est une réalité, hein.
Absolument. Mais la faculté n'a pas suivi ça et donc je n'ai pas été nommé. Ça a été un collègue de Saint-Pierre qui est venu, Marc Renard, avec lequel je me suis très très bien entendu pendant toutes les longues années de nos carrières respectives qui ont suivi. Et moi, j'ai postulé à Cavel où j'ai été accepté. Et le fait de ne pas avoir été nommé à Erasme, je pense, a été la meilleure décision de ma vie professionnelle que je n'ai pas prise activement.
Donc, en fait, ta réussite est due au hasard.
Au hasard et au mauvais choix de la faculté de médecine de l'ULB.
Voilà. Messieurs de la faculté de l'ULB, regardez ce que vous avez loupé.
Monsieur qui est tous retraités maintenant, ouais. Sans doute de
ils ont le temps de nous écouter maintenant. Ils ont le temps de nous écouter, voilà.
Exactement.
Et voilà.
Et donc, me voilà au début de ma deuxième carrière à Cavel, où je fais de la consultation et de l'hospitalisation, mais assez peu d'hospitalisation, puisque comme Cavel n'avait pas de cardiologie invasive, d'unité... On avait... L'USIV servait d'unité coronaire,
ouais.
Mais on avait pas de cardiologie invasive, encore moins de chirurgie cardiaque. Donc, il y avait relativement peu d'hospitalisation de cardiologie. Donc, c'était surtout de la consultation, à part un petit intermède où on a eu la coronarographie à Cavel pendant 2 ans. Mmh. Ça s'est arrêté parce qu'on n'a finalement pas obtenu l'agrément ministériel. Et de toute façon, c'était un peu bancal parce qu'on n'avait que la coronarographie diagnostique et pas d'angioplastie, et de nouveau encore moins de chirurgie cardiaque, ce qui là n'était pas un problème. Le fait de ne pas avoir d'angioplastie, donc pas pouvoir traiter les patients qu'on investiguait, était vraiment un point défavorable. Donc, surtout de la consultation, puis est arrivé Delta, donc beaucoup d'années après, où j'ai voulu participer à l'expérience, à la nouvelle aventure. Donc, j'ai maintenant une activité qui est essentiellement de la consultation à Cavel, un petit peu de la consultation à Delta. Et je continue à travailler un petit peu aussi à Erasme pour superviser les échographies, enseigner l'échographie. Pendant pas mal d'années, mon activité à Erasme a été de continuer de faire des coronarographies. Mais ça, j'ai arrêté il y a quelques années parce que finalement, il y a des fins à tout. Mmh. Et donc, sans trop me répéter, je fais maintenant surtout de la consultation de cardiologie en m'étonnant régulièrement moi-même du plaisir que je continue à prendre à faire ce métier qui est pour moi le même depuis maintenant énormément d'années, à faire essentiellement la même chose.
Qui a évolué quand même.
Oui, donc oui. Effectivement, la cardiologie de maintenant n'est plus du tout la même que celle d'il y a 35 ans. Mais néanmoins, l'activité reste globalement la même, c'est-à-dire recevoir un patient en consultation, écouter ce qu'il a raconté, faire le meilleur diagnostic possible, donner le meilleur traitement possible.
Le rassurer.
Ça, le rassurer quand je peux le faire, ce qui est heureusement fréquent. Et donc, l'activité dans son approche générale est la même et, je me répète, je m'étonne moi-même de me dire souvent « Ah, chouette, un nouveau patient qui a l'air d'avoir une histoire intéressante » et ce, après toutes ces années. Donc voilà
Michel,
le résumé de mon parcours.
Michel, tu aimes les gens.
Il y a de ça, certainement.
Tu aimes beaucoup les gens. C'est un plaisir de venir à ta consultation.
Merci.
Alors d'abord, on doit pédaler. Alors Michel, fais pédaler les gens dans son petit cabinet, hein. Et il prend un plaisir malin à te voir suer, à monter la force du vélo pour que tu sues encore un petit peu plus.
À baisser l'ERCO.
Exactement. Tu sais quoi, Michel, en fait ? Tu es un pervers. Voilà ce qui se passe.
Je suis à découvert.
Voilà. Bon, on connaît un peu mieux notre docteur Michel Abramovitch. Tu nous as d'ailleurs choisi deux morceaux musicaux, et je précise, avec soin.
J'ai avec fait mon soin. Possible, en effet, j'ai beaucoup voilà. réfléchi.
Avec soin.
Alors, quand les gens disent « j'ai beaucoup réfléchi », ce n'est nullement une indication ou une certitude comme quoi le choix sera bon.
Ah non, ça,
c'est qu'il a beaucoup réfléchi.
Ça, oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Parfois, on réfléchit très peu et le résultat est excellent. Mais j'ai beaucoup réfléchi.
Alors, vas-y, dis-nous un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi. Et par quoi on va commencer ?
Alors, je suis un grand fan de pop musique depuis plus de 50 ans. Et donc, tout ce qui est pop rock, Beatles et la suite, c'est ce que j'écoute tous les jours. Donc, j'ai dans le domaine une connaissance aussi encyclopédique qu'inutile. Et,
ça, c'était mignon.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes que j'adore et d'artistes que j'adore. Et c'est très difficile. De choisir deux morceaux, j'aurais pu facilement en trouver 200 tellement il y a évidemment des merveilles dans ce domaine de l'art comme dans beaucoup d'autres. Alors, si je dois vraiment, vraiment choisir, je pense que mon morceau préféré de tous les temps est « Things That Dreams Are Made Of » par The Human League en 1982, qui est un morceau à la mélodie imparable et aux paroles merveilleusement optimistes. C'est une ode à la jeunesse, au voyage, à la découverte et à l'amour. Fall in love without the pain. Mm-hmm. C'est le contraire d'Aragon. Et c'est quand même plus sympa.
Oui.
Il a tout à fait raison, notre bon cardiologue. Eh bien, on va commencer avec ça, mon cher Michel. Ça va clôturer la première partie de notre émission. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Judaïka 90.2, Yes Dog, votre émission médicale favorite qui est concoctée pour vous par vos deux présentateurs préférés, il faut le dire aussi, mais évidemment, bien sûr. Vous nous trouvez tous les lundis à 16h, tous les mardis à 20h en Facebook Live et en podcast Spotify et Apple Podcast. À tout de suite après Human League. China or revoilà avec l'excellent docteur Michel Abramovitch, cardiologue, qui va nous entretenir cette fois, non pas de ses choix musicaux. Il était très bien ton choix musical, hein, ceci dit.
Merci, merci.
J'étais aussi un fan de Human League. Hein. Mais de la prévention cardiovasculaire. Alors Michel, la prévention cardiovasculaire, pourquoi, comment, pour qui, pour tous ?
Certainement pour
tous.
C'est
à toi.
Merci, certainement pour tous. La prévention cardiovasculaire ou autre est l'ensemble des mesures qui visent à améliorer le pronostic, à diminuer l'impact de la maladie. Mmh. Il comprend le dépistage qui vise à déceler des maladies qui ne donneraient pas encore des symptômes mmh. et à donc pouvoir les traiter le plus tôt possible et plus tôt que qu'au moment de l'apparition des symptômes. Et les mesures de diminution du risque. Mmh. Ces mesures de diminution du risque concernent des patients dont on sait qu'ils sont malades, qu'ils sont porteurs d'une maladie. On parle alors de prévention secondaire, qui améliore le pronostic chez les patients malades, ou la prévention primaire, qui concerne l'ensemble de la population, malade ou non malade, mais heureusement, essentiellement non malade.
Non, mais c'est bien de faire la différence, tout à fait. Donc là, ici, en l'occurrence, on va s'adresser essentiellement à une population en bonne santé et à essayer de s'organiser pour qu'elle le reste, en tout cas au point de vue cardiovasculaire.
Absolument. Et donc, en ce qui concerne la prévention cardiovasculaire spécifiquement, ceux qui sont suffisamment âgés pour se souvenir de ce qui se passait il y a 35 ou 40 ans, savent qu'à l'époque, on entendait souvent dire « machin truc est décédé subitement »,« truc muche a fait un AVC massif »,« telle personne a été victime d'un infarctus myocardique massif étendu ». Ça arrive encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et la raison, je pense, en est une beaucoup meilleure prévention cardiovasculaire avec plusieurs éléments, dont l'un est la diminution considérable du tabagisme, et l'autre, la mise en œuvre de mesures de dépistage et de prévention médicamenteuse. La prévention médicamenteuse joue un rôle extrêmement important vis-à-vis surtout de deux situations de prévention primaire, qui sont l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle. Mmh. On y reviendra plus en profondeur, si vous le voulez.
Mais nous y reviendrons certainement, docteur. Alors, tu...
Et le diabète, non ? Le diabète rentre là...
Le diabète rentre absolument là-dedans. Et dans le diabète, on a fait des grands progrès relativement récemment. Si vous voulez, je peux en parler...
Vas-y, enchaîne, hein. Très bien.
Je peux parler ça. Donc, évidemment, le premier progrès dans le diabète a été la découverte de l'insuline en 1920 environ, aux alentours de 1920. Ça a permis aux diabétiques de ne pas mourir rapidement de coma. Mais ensuite, il y a eu de longues années de stagnation avec seulement l'insuline et surtout pour le diabète de type 1. Donc les patients qui deviennent diabétiques typiquement brutalement jeunes suite à une privation complète de la production d'insuline. Alors que la plus grande proportion des diabétiques actuels et dans nos pays industrialisés sont des diabètes de type 2, 90% environ.
Ce qu'on appelle le diabète gras.
Ce qu'on appelait avant le diabète gras, ouais, mais ouais, le politiquement ouais. correct ouais, fait ouais. qu'on ne parle plus comme ça maintenant.
Non, mais voilà. Ouais.
Mais c'est en effet ça, puisque typiquement ce sont des patients en surpoids. La maladie s'installe habituellement vers 50-60 ans et sa complication principale sont la détérioration de différents organes, le cœur, les yeux, les reins, les nerfs périphériques. Donc c'est une maladie qui détériore petit à petit l'organisme et vis-à-vis de laquelle on a toujours l'insuline, bien sûr, mais qui est de relativement peu d'intérêt dans le diabète de type 2, et toute une série de médicaments à prendre par la bouche, avec pas mal de stagnation pendant beaucoup d'années, et l'arrivée, il y a une dizaine d'années de deux catégories médicamenteuses supplémentaires. L'une qui sont, désolé pour le nom difficile à avaler, les inhibiteurs de la SGLT2, qui, pour faire simple, augmentent l'excrétion urinaire de glucose ou, pour faire encore plus simple, font pisser du sucre.
Tu vois, on a bien fait de l'inviter. On a bien fait de l'inviter. Je veux dire, j'étais sûr d'avoir un gentleman sur le plateau aujourd'hui. Donc, pisser du sucre, Michel, c'est ça.
Pisser du sucre, en effet. Et ce faisant, on diminue le taux sanguin de sucre. Mais là où ça devient encore beaucoup plus intéressant pour ces inhibiteurs de la SGLT2, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres médicaments qu'on prend par la bouche pour traiter le diabète, il y a une démonstration d'une amélioration du pronostic, c'est-à-dire moins de maladies en général, moins de mortalité, moins d'insuffisance rénale, moins de maladies cardiovasculaires. Et là où ça devient encore plus intéressant, excusez des superlatifs, c'est que on s'est rendu compte que chez des patients porteurs de certaines maladies cardiaques sans diabète, ces médicaments inhibiteurs de la SGLT2 améliorent le pronostic. Chez des patients qui ont une maladie rénale, ces médicaments améliorent le pronostic, de nouveau, même en l'absence de diabète. Et pour terminer avec cette catégorie, dans l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire la maladie qui est caractérisée par le fait que le cœur n'est pas à même de subvenir aux besoins de l'organisme, en termes de fonction cardiaque bien sûr. Dans l'insuffisance cardiaque, ces médicaments améliorent le pronostic et sont devenus une part intégrante du traitement, au même titre que d'autres substances qui agissent directement sur le système cardiovasculaire, ce que les inhibiteurs de la SGLT2 ne font pas. Et dernier volet, dans l'insuffisance cardiaque, il y a une catégorie de patients qui, même si c'est un peu difficile à comprendre, n'ont pas de diminution de la force musculaire cardiaque. Ils ont une insuffisance cardiaque, mais pas de diminution de la force du muscle cardiaque. L'insuffisance cardiaque vient d'autres facteurs qui sont souvent multiples et s'associent. Et cette maladie, l'insuffisance cardiaque dite à fraction d'éjection préservée, donc sans diminution de la force contractile musculaire, cette maladie est extrêmement réfractaire à tout. On a essayé toutes les catégories médicamenteuses actives dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, avec diminution de la force contractile musculaire, et aucun ne fonctionnait, aucun n'était efficace, jusqu'à l'arrivée des inhibiteurs de la SGLT2, et petit à petit, donc dans le diabète, puis pas dans le diabète, dans la maladie cardiaque, dans l'insuffisance cardiaque, maintenant, c'est le seul médicament qui améliore le pronostic dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ça, c'est pour la première des deux catégories récentes de médicaments à prendre par la bouche contre le diabète.
Et c'est quoi comme médicament on le connaît sous quel nom, ce médicament, pour nos auditeurs?
On les connaît sous le nom de marque de Jardiance et Forxiga.
OK.
Et le deuxième médicament
sont les agonistes de la GLP-1, donc ce n'est pas beaucoup plus digeste que la catégorie précédente.
Et là, on ne pisse plus du sucre. Là,
on ne pisse plus du sucre. On a une action complexe, donc que je ne vais même pas essayer de vous expliquer, notamment parce que personne ne l'a encore vraiment bien comprise. Mais donc, c'est une action complexe qui est intervient au niveau des mécanismes de production de l'insuline et du glucagon, qui est l'hormone qu'on peut qualifier d'antagoniste de l'insuline. Et ces médicaments, de nouveau, améliorent le pronostic, et en particulier le pronostic cardiovasculaire dans le diabète. C'est une catégorie qui est devenue fort célèbre puisqu'elle comprend l'Ozempic, qui est utilisé aussi pour faire maigrir, avec une efficacité assez remarquable et une amélioration du pronostic cardiovasculaire chez les patients en surpoids. Ça, c'est la deuxième catégorie de médicaments qui a assez bien révolutionné le traitement du diabète. Quand vous voyez arriver un patient diabétique ou quand vous voyez arriver un patient insuffisant cardiaque, regardez ce qu'il a comme traitement et vous pouvez deviner l'âge de son spécialiste.
Ah oui, c'est ça. C'est marrant, ça.
Oui. C'est un peu caricatural
ouais,
et,
oui,
un
mais
peu,
okay.
et un peu vrai.
Oui, oui, ok, d'accord, je suis bien suivi.
Alors, si on revient à nos moutons, c'était très intéressant. Mais donc, en prévention primaire, ça intéresse qui vient consulter
Alors, disons qu'en prévention primaire, il y a essentiellement trois aspects. Un, le tabagisme à la cigarette. Mm-hmm. Et là, tout le monde ne vient pas consulter, mais tout le monde est concerné. Et le tabagisme est évidemment un fléau, non seulement sur le plan cardiovasculaire, mais aussi sur le plan du cancer. Je ne fais jamais de morale. Je pense que c'est notre rôle de dire quelque chose. Je pense qu'on ne doit pas avoir une consultation avec un patient fumeur sans lui rappeler, éventuellement sous forme de boutade, que bien entendu, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer, qu'il n'hésite pas à jeter toutes ses clopes, enfin quelque chose comme ça. Mais je ne fais pas de morale, c'est-à-dire chacun fait ses choix et fumer peut être un risque calculé, tout comme partir en randonnée dans les Andes est un autre risque calculé. Ouais. Mais on sait que le tabagisme est un fléau, tant au point de vue cardiovasculaire qu'au point de vue du cancer, tout le monde le sait. Les deux autres aspects les plus importants sont l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est le facteur de risque principal de l'accident vasculaire cérébral. Et le traitement de l'hypertension artérielle est extrêmement efficace pour diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral, mais aussi d'infarctus myocardique, d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale. Ce traitement de l'hypertension artérielle est connu depuis des dizaines d'années et on a maintenant une vaste palette de catégories de médicaments différents qui sont efficaces pour réduire la pression artérielle et réduire le risque de maladies cardiovasculaires et en particulier de l'AVC, mais aussi, je me répète, de l'infarctus myocardique, de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance rénale.
Mm-hmm. Ok. Et l'hypercholestérolémie, alors, parce que là, ça touche...
Ça peut toucher tout le monde. Il y a un facteur familial extrêmement important. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent encore, l'hypercholestérolémie est peu liée à l'alimentation. Mm-hmm. Le régime alimentaire donc, a peu d'effet sur le taux sanguin de cholestérol. Ce qui compte avant tout, c'est le mauvais cholestérol ou cholestérol LDL. Mm-hmm. Et donc, il y a un critère qui s'appelle le facteur de risque cardiovasculaire ou le risque
ratio.
Cardiovasculaire.
Le ratio.
Qui est le rapport du cholestérol total sur le cholestérol HDL ou bon cholestérol, c'est bon pour la poubelle. Heureusement, de moins en moins de laboratoires mentionnent ça. C'était étiqueté souvent risque cardiovasculaire. J'expliquais aux patients que ça, c'est un abus de pouvoir du laboratoire. La plupart des patients, quand ils voyaient ça, ils pensaient que le risque cardiovasculaire n'était défini que par ça.
Mm-hmm. Ah
que
oui.
Par ce que le laboratoire mentionnait comme rapport de cholestérol total sur cholestérol HDL. Donc, le cholestérol HDL ou bon cholestérol est en réalité assez peu protecteur. Le cholestérol total, on s'en fiche, parce qu'il n'est que le témoin des rôles combinés du HDL bon et du LDL mauvais. Et ce qui compte de très loin avant tout, c'est le mauvais cholestérol, le cholestérol LDL. Les triglycérides, eux, ont assez peu d'importance en termes de risque cardiovasculaire.
Alors, on est bien d'accord sur le principe, mais un jeune, donc puisque tu parles de l'hypercholestérolémie comme facteur de risque pour plus tard, évidemment, un jeune qui a une hypercholestérolémie, comment est-ce que tu vas suivre ce jeune qui a une hypercholestérolémie? Est-ce que tu vas traiter? Est-ce que tu vas attendre? Est-ce que ça sera fonction de son mode de vie? Comment ça marche?
Je pense que les jeunes, disons les grands adolescents et les jeunes adultes, disons entre 18 et 25, doivent avoir une analyse sanguine. Une. Parce que c'est dommage de laisser quelqu'un avec une hypercholestérolémie importante qui va, pour parler de façon imagée, grignoter petit à petit ses artères et le mettre à risque 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. C'est un processus extrêmement long. Mais, je me répète, c'est dommage de laisser ce facteur de risque sans tenter de le modifier. D'autant plus que, comme je l'ai dit, il est prouvé que le modifier diminue le risque cardiovasculaire de manière conséquente. Ça met du temps et c'est pour ça qu'on a pris le parti ces dernières années parce qu'on s'est rendu compte que le traitement de l'hypercholestérolémie était certes efficace, mais qu'il fallait un petit paquet d'années. On ne traite plus les hypercholestérolémies des octogénaires. Alors qu'on traite l'hypertension des octogénaires parce que là, l'effet est beaucoup plus rapide. On voit une divergence des courbes de mortalité et de maladie en déant 6 mois. On traite un patient de 90 ans hypertendu, et il y a beaucoup de patients de 90 ans hypertendus puisque la fréquence de l'hypertension artérielle augmente avec l'âge. On traite un patient de 90 ans hypertendu et on a un bénéfice pronostique après 6 mois. Si on parle de l'hypercholestérolémie, le bénéfice pronostique met au moins 5 ans. Et donc, si on trouve une hypercholestérolémie importante chez un jeune, c'est une bonne idée de le traiter.
C'est ça. Et oui, Maïel.
Est-ce qu'on ne fait pas d'autres examens? Parce que souvent, souvent, on complète avec l'échographie, justement, oui. Doppler.
Oui. Mais donc là, c'est effectivement quelque chose qu'on fait volontiers quand on est dans une zone de gris. D'accord. Si un patient, quel que soit son âge, a une hypercholestérolémie qui n'est ni gigantesque ni minime, mais qui est dans la zone de gris, entre les deux, on se gratte la tête, est-ce qu'on le traite, est-ce qu'on ne le traite pas? Là, intuitivement, on recourt effectivement volontiers à l'échographie des artères carotides. Si on voit qu'il y a zéro dépôt, on ne voit pas que c'est du cholestérol, mais on sait que ce sont des plaques riches en cholestérol. Si on ne voit aucun dépôt, aucune plaque, on se dit on peut ne pas traiter. Okay. Par contre, si on voit ne fût-ce qu'un petit peu de dépôt de cholestérol, on considère que c'est une bonne idée de traiter. C'est une attitude qui n'est pas validée scientifiquement par des études rigoureuses, mais qui est raisonnable et souvent, et que j'applique moi volontiers.
Alors moi, j'ai une petite question par rapport au Doppler, justement, à l'éco-Doppler. Le radiologue va aussi mesurer l'épaisseur de la paroi de l'artère, qu'on a plus ou moins.
L'IMT, oui.
Voilà, l'épaisseur intima media. Et j'avais appris à l'époque, je ne sais pas si c'est encore valable, que ça rentrait dans les facteurs de risque cardiovasculaire aussi. Selon la mesure qu'on avait, ça pouvait accentuer le risque cardiovasculaire. Est-ce que c'est toujours
C'est toujours vrai, mais c'est mineur.
C'est mineur.
C'est mineur, d'accord. Mais c'est vrai.
D'accord.
Donc c'est l'épaisseur de la paroi interne des artères.
Voilà. Évidemment. C'est pour faire simple.
Non, mais intéressant. Bien, donc ça veut dire ces jeunes en question, pour terminer, pour clôturer... qu'est-ce qui va te décider, parce que le jeune, tu vas pas lui faire une échographie de ses carotides, à moins que déjà à cet âge-là, on puisse voir des dépôts de cholestérol, des petites plaques, mais enfin, c'est quand même pas...
En effet, je suis tout à fait là.
Voilà, là, ça a beaucoup moins d'intérêt, ça veut dire que...
On n'a pas encore eu le temps de constituer ces plaques.
Exactement, donc ça veut dire quoi, à ce moment-là,
ça veut dire qu'on se base seulement sur le chiffre. Ça veut dire que si on a une hypercholestérolémie considérable, on traite.
C'est ça. C'est quoi considérable?
C'est un LDL qui est supérieur à 180 mg par décilitre, sachant que la norme ne dépasse pas 130 et que la cible est de l'ordre de 100. Puisque dans notre population, cible et normale n'est pas la même chose.
Bien.
La question suivante, c'est avec quoi on traite? Parce que pour l'hypertension artérielle, c'est...
Voilà, il y a une batterie.
Il y a une batterie et on va... C'est au-delà, je pense, du sujet de cette émission, de discuter des différentes sortes de médicaments hypotenseurs. Par contre, dans l'hypercholestérolémie, il y a là une controverse que nous connaissons tous et qui est celle des statines.
Ouais.
Et donc, avant d'avoir...
Oui, c'est vrai que c'est intéressant, ça.
Avant d'avoir les anti-vax, ceux qui nous racontent des tas de calembres d'aines sur les vaccins Covid, que c'est un crime de la société, que c'est un poison et qu'il ne faut surtout pas accepter cette horreur, alors qu'en réalité, c'est une trouvaille scientifique extraordinaire qui a évité des millions de décès. Avant les anti-vax, on avait et on a toujours les antistatines. Ceux qui considèrent que c'est un poison violent. Mais on ne peut avoir ce type de discours que si on réfute la méthode scientifique. parce que les études scientifiques qui ont démontré l'efficacité des statines en termes de diminution du risque d'infarctus myocardique et de la mortalité cardiovasculaire sont légion. Les preuves sont bétonnées. Mais si on avance l'argument que toutes les études sont truquées et que donc on a un état d'esprit conspirationniste, là, moi, je vis sur une planète différente de ces gens-là. La discussion n'est pas possible.
Oui, c'est
mais
vrai.
Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup...
De médecins
et de professeurs. Beaucoup de Français. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Et qu'est-ce qu'on leur reproche aux statines ?
Ah, que c'est une conspiration des firmes pharmaceutiques pour empoisonner la population et se faire du pognon.
Mais est-ce qu'on voit que c'est efficace sur une prise de sang ? Donc on voit que ça diminue.
Oui, mais le but du traitement par statine n'est pas de faire baisser le taux de cholestérol.
C'est d'améliorer le risque.
C'est de diminuer le risque.
Diminuer la morbidité et la mortalité.
Exactement, in fine. Donc c'est vrai que ce sont des études qui demandent
beaucoup d'années.
Un terme de 20 ans, 30 ans.
Mais beaucoup.
Oui, mais là maintenant, ça fait un certain temps. Là.
Beaucoup de sujets. Oui, les statines sont utilisées maintenant depuis 30 ans.
Voilà.
Et les études, typiquement, comme dans d'autres situations de prévention cardiovasculaire, sont des études sur 5 à 6 ans avec 20 à 40 000 sujets ou patients. Ce sont donc des études qui demandent une énergie et un investissement considérable. Ça a été fait pour beaucoup de médicaments antihypertenseurs. Ça a été fait pour les 4 statines disponibles sur notre marché. Ça a été fait en prévention primaire, ça a été fait en prévention secondaire. Aucune étude n'est discordante. Toutes sont favorables et il n'y a pas de biais de publication. Parce qu'on peut craindre ce biais si les études sont petites. Si on a une étude qui donne un résultat impressionnant sur 200 patients, on peut craindre le biais de publication parce que tout le monde préfère des études avec un résultat positif. Et donc, si on a une étude qui donne un résultat négatif, on a tendance à la garder dans le tiroir. Si on ne la garde pas dans le tiroir, le journal scientifique a tendance à ne pas la publier. Par contre, l'étude scientifique favorable, positive, sera publiée. Donc, si une petite étude scientifique est favorable, elle est plus sujette à caution que si on a inclus 20 000 patients.
Bah évidemment. Clairement.
Et on a une alternative aux statines si ça ne convient pas à certains patients.
Oui. Donc, les statines sont absolument non toxiques. C'est-à-dire que, contrairement à certains médicaments qui peuvent abîmer certains organes en traitement prolongé, pas nécessairement chez tous les patients, mais chez certains, et pour lesquels on prend un risque calculé de les administrer quand même, par exemple, parce qu'ils sont utilisés dans des maladies graves, donc les statines ne sont aucunement toxiques, n'abîment rien, n'augmentent pas le risque de cancer, n'augmentent pas le risque de suicide, toutes choses qu'on a évoquées et qui n'étaient pas stupides à être évoquées, mais qui ne sont pas le cas. Les statines ont dans 10 à 15% un effet secondaire de douleur musculaire qui peut être extrêmement ennuyeux et qui amène à arrêter le traitement. Parce que si cet effet secondaire est présent, il sera présent avec toutes les statines.
Oui,
c'est pas la peine d'en essayer une autre. Alors, quelles sont les alternatives ? Il y a les fibrates, qui sont des médicaments extrêmement anciens, qui sont efficaces pour faire baisser le taux de cholestérol, mais qui n'ont pas démontré d'amélioration du pronostic cardiovasculaire. Ah. Donc, il y a eu quelques études qui étaient peu concluantes. Il y en a de moins en moins sur le marché et c'est très bien. Ils sont efficaces pour faire diminuer les taux de triglycérides, mais à part de rares cas d'élévation massive, ça n'a pas d'intérêt. Il y a un traitement par injection qui a, lui, démontré son efficacité en termes de prévention, donc de diminution de la morbidité et de la mortalité. C'est un traitement qui est en injection sous-cutanée, assez facile. La majorité des patients peut faire ça eux-mêmes. C'est une injection toutes les 4 semaines et c'est moins efficace que les statines, à la fois en termes de taux de cholestérol et en termes de mortalité. Donc la comparaison des efficacités des différentes catégories médicamenteuses est un argument supplémentaire pour la théorie du cholestérol. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le taux de cholestérol qui détermine la morbimortalité cardiovasculaire, puisque un médicament qui diminue moins le taux de cholestérol va faire moins diminuer la maladie, le risque de maladie aussi. Mais donc, cette catégorie médicamenteuse est intéressante. Il y en a une autre qui est un médicament qu'on prend par la bouche, qui lui aussi, comme les statines, diminue notre fabrication personnelle de cholestérol. Donc les statines diminuent notre synthèse de cholestérol, donc ce que notre foie fabrique. L'autre catégorie de médicaments à prendre par la bouche est active à un autre niveau du processus biochimique de fabrication du cholestérol, est aussi un peu moins active que les statines en termes de taux de cholestérol et en termes de prévention cardiovasculaire. Et enfin, si je ne vous ai pas encore tous perdus,
on est encore là.
Et il y a une dernière médication, le médicament est seul dans sa catégorie, qui diminue l'absorption alimentaire du cholestérol. C'est nettement moins efficace que les statines, mais c'est un ajout logique en termes de mécanisme aux statines.
Ça, c'est quoi ? C'est margarine
Non, c'est un vrai médicament. Ça s'appelle ezetimib ou ezetrol.
Ah oui.
Et ça diminue l'absorption digestive du cholestérol. Il y a une étude qui démontre son efficacité préventive, une seule étude, et qui est chez des patients rescapés d'infarctus myocardique. Donc, la base scientifique est assez faible. Est assez molle, ouais. Mais c'est un médicament qui est utilisé volontiers par nos confrères, notamment parce que la probabilité d'effet secondaire est proche de zéro.
Ok. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces aliments qu'on trouve sur les étals des grands magasins, vous savez, ces margarines anti-cholestérol, ouais. Savez, on baisse le cholestérol, machin. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça ?
Deux mots. Calories inutiles.
Bullshit. Mm-hmm. On est maximum. D'accord hein, sur le ouais. principe.
Oui, oui.
Parce que moi, c'est un mot. Hein.
Tu peux le diviser en deux. Hein.
Oui, oui. Ok, très bien. Maëlle.
On a un patient qui vient qui n'a aucun facteur de risque, c'est-à-dire qu'il n'a pas de diabète, qu'il n'a pas de tension, qu'il n'a pas de cholestérol, qui ne fume pas, mais qui a une histoire familiale d'infarctus du myocarde chez son père, chez son grand-père, chez sa mère. Qu'est-ce qu'on fait de ça ?
On le couche pendant 60 ans. Il ne bouge plus.
Non. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'ils arrivent souvent inquiets.
Bien entendu, à juste titre, puisque dans les facteurs de risque principaux, il y a ceux qui sont modulables, comme le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, et un autre qui ne l'est pas et qui est l'histoire familiale. Quand on manipulera génétiquement les êtres humains, ce facteur de risque sera peut-être modulable. Pour le moment, il ne l'est pas et c'est un facteur de risque important. Mm-hmm. Avec la vérification de ce qui est intuitif, c'est-à-dire qu'un infarctus myocardique chez son papa à 42 ans, chez son oncle à 45 ans et chez sa tante à 52 ans, ça, c'est vraiment inquiétant. Et donc, ces patients bénéficient d'un dépistage. Donc, c'est le volet qu'on n'a pas encore abordé, dépistage. Et comment dépiste-t-on la maladie coronaire, c'est-à-dire les rétrécissements des artères du cœur, puisque les artères du cœur s'appellent les artères coronaires. Comment dépiste-t-on les rétrécissements des artères coronaires chez des patients qui n'ont pas de symptômes ? C'est typiquement par un test d'effort, parce qu'en cas de rétrécissement d'une artère ou de plusieurs des artères coronaires, typiquement au repos, la quantité de sang qui arrive au muscle cardiaque est suffisante, mais à l'effort ne l'est plus. Parce qu'il faut évidemment plus de sang qui arrive à un muscle qui se contracte vite et fort qu'à un muscle qui se contracte lentement et faiblement. Et dans cette situation de rétrécissement d'une artère ou de plusieurs artères coronaires avec diminution inappropriée du flux sanguin à l'effort, l'électrocardiogramme se modifie d'une manière tout à fait typique. Avec une bonne fiabilité, rien n'est jamais du 100%, mais avec une bonne fiabilité. Et donc, le test d'effort avec électrocardiogramme est un bon dépistage de la maladie coronaire. Et ces patients, avec ce facteur de risque-là, bénéficient d'un dépistage régulier de l'ordre de une fois toutes les quelques années quand ils sont jeunes, et à partir de 50 ou 60 ans, selon le profil de risque par ailleurs, tous les ans.
Ok.
De toute façon, le test à l'effort est recommandé hein, de manière régulière, ne fût-ce que pour se rassurer. Quoi, hein.
Est absolument recommandé à titre de dépistage et de plaisir personnel du cardiologue. Comme tu le rappelais tout à l'heure.
Oui, c'est exact. C'est
devant
vrai
la
que...
souffrance.
Ah non, mais c'est ces petites séances de spinning chez notre ami Michel. C'est un moment de plaisir. C'est un moment de plaisir. Merci Michel. Très bien, ça me paraît... Oui, Maëlle, nous sommes bien. Alors, justement, prévention secondaire, donc on a déjà abordé un peu le sujet là, à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire de cette prévention secondaire ?
Qu'on a fait énormément de progrès. Il y a 40 ans, la prévention secondaire de l'infarctus myocardique se résumait à zéro. Et puis est arrivée la simple aspirine, pour laquelle on a démontré une efficacité préventive sur le mode, je ne vais pas le répéter chaque fois, mais donc sur le mode de diminution du risque de récidive d'infarctus myocardique, diminution du risque de mourir, diminution du risque d'insuffisance cardiaque. Puis sont arrivés les bêta-bloquants, donc des médicaments qu'on peut appeler ralentisseurs cardiaques. Puis encore un nom un peu plus difficile à avaler, qui sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui sont aussi utilisés dans l'hypertension et qui diminuent le risque de morbimortalité après infarctus myocardique. Sans parler évidemment des techniques non médicamenteuses que sont l'angioplastie, donc technique par cathéter où on va typiquement mettre un ou des stents.
Donc des petits ressorts
qui maintiennent l'artère ouverte.
Le vaisseau ouvert.
Des ressorts qui maintiennent l'artère ouverte. Le pontage coronarien. Donc, stent et pontage coronarien qui sont utilisés pour soulager les symptômes, en particulier l'angine de poitrine, qui est la douleur secondaire au fait que les artères sont rétrécies. Mais aussi, dans certains cas, pas très fréquents, mais dans certains cas, améliorer le pronostic, que ce soit l'angioplastie, par stent ou le pontage coronarien.
Ok, parfait. Je crois qu'on a fait
est-ce
déjà...
Est-ce que le cannabis, parce que souvent on parle de vasospasme, est-ce que le cannabis, à part arrêter, a un effet à long terme sur les artères ? Est-ce que ça ne va pas abîmer d'un point de vue
Tu veux dire le cannabis pur ou bien le cannabis mêlé à du tabac ?
Tu m'en demandes beaucoup, là.
Ah oui, mais c'est ça. C'est quoi
fumer du cannabis, par exemple.
Alors, la vision conventionnelle, c'est que les fumeurs exclusifs de cannabis ne consomment que très peu de tabac. Et le cannabis lui-même n'est guère toxique.
D'accord.
Ça, c'est la vision conventionnelle. Des études récentes sont moins optimistes et suggèrent que le cannabis... en utilisation usuelle, donc quelques joints par jour et pas plus, augmenterait le risque cardiovasculaire à long terme. Pas de façon gigantesque, virgule, mais quand même. Mais les données sont encore assez peu étayées.
Peu concluantes. Ok.
Il nous reste rien, quoi, Maya. Il nous reste rien. Donc il nous reste... Alors, on n'a pas l'alcool, on n'a pas le beurre, on n'a plus le pétard.
Si, le beurre. Certainement le beurre.
Ah, le beurre.
Le beurre se marie très bien avec les statines.
Ouais, c'est magnifique.
Comme l'alimentation joue peu sur le taux sanguin de cholestérol.
J'ai une question.
Très bien, le beurre.
Est-ce qu'on peut fumer le beurre de...
On a perdu Eddy.
Ça va être étudié pour notre émission
pour la prochaine. Ouais. Exactement. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup,
c'était
Michel.
C'était passionnant.
Nous recevions le docteur Michel Abramovitch, cardiologue, qui nous entretenait de prévention cardiovasculaire, avec beaucoup de talent d'ailleurs, il faut le dire.
Merci beaucoup.
Et mon cher Michel, tu nous as concocté donc un second morceau musical.
Qui est ?
Nous sommes à toi.
Le second morceau musical est Beyond the Pale de Procol Harum.
Voilà.
Procol Harum est un de mes groupes préférés. Je peux dire ça de beaucoup, mais c'est un de mes groupes préférés. Il a été actif essentiellement de 1967 à 1975, en commençant par A White Shade of Pale, que sans doute tout le monde connaît.
Le slow le plus célèbre.
Un slow crapuleux de l'été, en l'occurrence de l'été 67, qui a fait énormément de tort au groupe. Tu dois écouter ça, Yael.
Qui a fait du tort au groupe.
Ça a fait énormément de tort au groupe parce qu'ils ont eu un succès gigantesque et ils ont été considérés comme un one-hit wonder.
Ah oui, okay.
C'est-à-dire un groupe avec un seul succès et puis c'est fini. Et c'est totalement faux. C'est un groupe extraordinairement talentueux, avec quelques particularités, d'avoir un membre qui est un parolier. Il ne fait que ça. C'est un juif semi-autiste qui donne un cachet intellectuel et intéressant, original aux paroles, très souvent. Souvent avec un côté surréaliste. Et l'autre particularité du groupe, c'est d'avoir à la fois un pianiste et un organiste, ce qui donne un son inhabituel. Un autre côté assez spécial, c'est que... un autre côté assez spécial, c'est qu'ils avaient pendant leurs premiers albums un guitariste qui était une espèce de clone de Jimi Hendrix, c'est-à-dire guitare hurlante, bon, assez bien contenue par le reste du groupe, mais quand même, et qui détonnait un petit peu, mais qui donnait aussi une touche particulière. La chanson que j'ai choisie s'appelle « Beyond the Pale ». C'est une expression qui veut dire « la fieu, tu exagères », quoi. « You are beyond the pale ». Et historiquement, « pale », c'est un pieu. Et l'expression se retrouve dans deux régions. D'une part en Irlande, où ça délimitait deux régions, et d'autre part en Europe centrale, où ça délimitait la zone où les Juifs avaient le droit d'être.
Ah mon Dieu.
Beyond the Pale.
Oula.
C'est intéressant.
Voilà. Et encore un mot sur le
groupe. Oui, la prochaine fois, tu viendras nous parler de rock'n'roll et judaïsme.
D'accord. Effectivement, j'ai déjà commencé. Donc, vous apprécierez, j'espère, la qualité de la mélodie, peut-être les paroles, et certainement la voix du chanteur et compositeur Gary Brooker, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans. D'accord. Et que, encore un tout petit mot, que j'ai eu l'occasion de voir en concert. Donc, j'ai eu l'occasion de voir le groupe en concert dans les années 70 au cinéma Marny, Place Flagey.
Ah oui.
Et il y avait une boule à facettes. C'était surtout un concert extraordinaire.
Ah, le Marny, oui, j'ai des bons souvenirs là aussi. Merci Michel, c'était vraiment bien. Merci d'avoir été avec nous et merci pour toute cette information. Un petit take-home message, prévention ? Don't smoke.
Soyez fou. Non, je rigole.
Profitez de la vie, faites les choses qui vous plaisent, mais allez de temps en temps voir le médecin de manière raisonnée.
Voilà. Allez, voir le allez faire du vélo chez votre cardiologue et pour le reste, profitez. Chers amis, on clôture notre émission avec ça. Pour Colaroum, très bien pour clôturer Maïel. Hein.
Super.
On se fait des bisous et on se voit à la prochaine. À très vite. Who will